l'épistémologie et ce qui nous était présenté dans les différentes disciplines de l'épistémologie était souvent, on va dire, relativement académique, pas forcément très appliqué, très souvent hors sol. Et ça nous avait semblé, on va dire, être un écueil, alors qu'il y avait un travail de questionnement qui était extrêmement important et pertinent, qu'on pouvait faire à l'aide des concepts de l'épistémologie, mais qui était sans doute insuffisamment natif dans la plupart des sciences. C'était souvent une discipline qui était à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Et on a plusieurs de nos grands professeurs, dont Yvon Pequeux, dont un autre professeur de stratégie dont le nom ne me revient pas tout de suite, mais à qui on a emprunté le texte, Alain-Charles Martinet, qui a le premier dans un très court texte utilisé l'expression « travail épistémique ». Et l'idée nous a bien plu, Alain-Charles n'a pas du tout développé le filon, nous par contre on a essayé de creuser. Et qu'est-ce qu'apporte du coup ce concept de travail épistémique par rapport à d'autres choses qui existent déjà ? Premièrement, c'est ne pas être axé sur le contenu, mais être axé sur le processus. Le travail, ça veut dire qu'il y a un processus d'engendrement, on va dire, de la connaissance ou de production de tout un tas de trucs dont on n'est pas forcément sûr de leur statut épistémique et qu'il va falloir questionner, qu'il va falloir triturer, qu'il va falloir torturer en quelque sorte, les passer, on va dire, à la moulinette d'un certain nombre de filtres pour obtenir un certain nombre de propriétés. Et ces propriétés sont des propriétés liées à la connaissance. Donc, on a appelé ça travail épistémique. Une autre manière de dire, c'est le travail de la connaissance. Le travail de la connaissance, c'est quelque chose qui est en fait une activité humaine extrêmement banale. C'est-à-dire que tout le monde travaille de la connaissance à son niveau. Et donc, du coup, il va falloir définir un peu plus précisément ce qu'on entend par travail épistémique, puisque finalement, la plupart des gens sont en train d'aller s'informer sur Internet, chercher deux, trois trucs sur leur téléphone. Ils sont en train de travailler la connaissance pour un certain nombre d'objectifs. Quels sont les grands objectifs qu'on va retenir ? J'emprunte un concept à la sociologie qui est celui de connaissance ordinaire. Il y a tout un courant de la sociologie qui s'appelle la sociologie de la connaissance ordinaire et qui montre que, bah, effectivement, monsieur, madame lambda, de tout un chacun, a bien une forme de réflexion et élabore, on va dire, des théories. Mais ces théories n'ont en aucun cas un objectif qui soit scientifique. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas besoin. Elles sont largement suffisantes pour exercer leur activité quotidienne. La différence de la connaissance scientifique, c'est qu'on espère que le travail épistémique débouche sur quelque chose de robuste, c'est-à-dire une connaissance qui soit fiable, qui, si possible, se conforme à l'idéal régulateur de la science, qui est la vérité, c'est-à-dire le fait qu'on ait à la fin des propositions qui soient empiriquement testables, qui soient valables, qui soient potentiellement reproductibles dès qu'on est dans quelque chose de fortement mécanique et de fortement similaire. Et l'idée, c'est finalement de produire des théories rigoureuses. Mais, comme l'histoire des sciences le rappelle, toute théorie rigoureuse n'a pas du tout commencé comme une théorie rigoureuse. Elle a fini comme étant une théorie rigoureuse. Comment ? Avec un certain nombre de mécanismes d'édition, de rajout, de retrait, de reformulation théorique qui font que la science avance toujours. La science n'est pas un domaine figé. Les théories ne sont pas figées. En revanche, on essaye de les consolider le plus possible afin d'avoir un effet cumulatif. Donc le travail épistémique tel qu'on l'entend, c'est un travail épistémique à vocation scientifique, donc qui va devoir satisfaire deux grands critères, que sont tout d'abord effectivement un critère de validité logique. Il faut que le travail soit cohérent, ce qui permet d'avoir une vérité au sens interne, et bien entendu également une vérité au sens externe, c'est-à-dire la conformité avec les choses, la conformité entre la théorie et l'empirie, mais qui va en plus être pris dans un travail qui lui est toujours un travail à dimension sociale. Donc il y a une dimension institutionnelle qui est, on pourrait appeler la justification, et qui n'est pas purement logique, et qui est l'acceptation, la réception par la communauté scientifique, ce qui fait que le travail épistémique n'est pas quelque chose qu'on fait seul, qu'on fait en chambre, c'est un travail collectif qui se fait au sein de réseaux, de communautés, et donc qui a maille à partir avec tout un tas de considérations des sciences humaines et sociales qui va venir orienter ce travail de la connaissance, parfois dans des modalités ou avec des effets qui vont être positifs pour la qualité de la connaissance produite eu égard aux critères scientifiques, parfois qui pourra l'envoyer dans d'autres domaines, comme notamment celui de l'idéologie ou d'une pathologie scientifique classique qu'on appelle le scientisme. Donc voilà les grands traits, on va dire, du travail épistémique et l'intérêt par rapport à une discipline plus ancienne à qui évidemment on emprunte largement pour reformuler, on va dire, ses acquis, qui est l'épistémologie. La deuxième question est ensuite de l'appliquer aux sciences de gestion. Donc, le travail épistémique, c'est quelque chose qu'on fait dans toute discipline scientifique et donc qu'on est censé évidemment faire en sciences de gestion. Quels sont les critères d'un travail épistémique intéressant? Quelles sont les différentes choses qu'il reste à faire? Est-ce que le travail épistémique nous permet d'illustrer une démarche qui irait, dans l'idéal évidemment, hein, du tout début, on a une vague question, un phénomène opaque, on ne sait pas trop ce que c'est, on cherche à élaborer, proposer une théorie, on fait différents essais ou non, mais sur quels critères va-t-on évaluer ces différents essais, comment reformuler et pourquoi, et c'est en répondant à toutes ces questions en fait qu'on est en train de montrer le travail épistémique à l'intérieur d'une discipline scientifique, et non plus simplement, on va dire, comme une position de surplomb. Appliqué aux sciences de gestion, un des phénomènes importants, c'est la contingence. C'est-à-dire le fait qu'on n'est pas comme par exemple en sciences physiques où des particules élémentaires sont réputées parfaitement substituables et interchangeables. Elles ont les mêmes propriétés et ces propriétés suffisent à les identifier. Nos particules élémentaires à nous, ce sont des individus. Nos individus ont des histoires différentes, des situations différentes, des cultures différentes. Autrement dit, ils ont tout un tas d'éléments particuliers qui font que la question se pose de savoir comment les traiter ensemble ou séparément pour pouvoir produire une explication qui soit robuste, qui soit scientifique. Deux méthodes sont classiquement possibles, deux formes de travail épistémique. Un premier type de travail épistémique qui est plus macro, qui va donc partir, on va dire, sur la loi faible des grands nombres pour obtenir une validité statistique à un niveau agrégé. Quel est l'intérêt de la validité de la loi faible des grands nombres? C'est que si vous avez une somme de lois normales et que vous les mélangez toutes ensemble, une somme de lois, pardon, peu importe d'ailleurs la nature de la loi de probabilité, elles finissent par converger vers une loi normale. Donc ça permet d'obtenir une information fiable, à un niveau agrégé, avec un bon niveau de régularité, mais en ayant détruit l'ordre interne, en ayant détruit les spécificités. Alors, on va évidemment déboucher sur, par exemple, des méthodologies type quantitative. Une autre option est d'essayer non plus de dégager, par exemple, une régularité ou une connaissance fiable qui soit à un niveau agrégé, mais au contraire, de partir dans le terrain, dans le détail du terrain, pour illustrer des mécanismes, on va dire, de sciences humaines et sociales, qui soient à l'échelle de l'individu. Et donc, on va avoir des démarches qui peuvent être plutôt micro et qui vont chercher, en général, à reconstituer les raisons des acteurs ou bien, dans des versions plus déterministes, à trouver des déterminants de les comportements des individus, etc. Le travail épistémique va donc nous permettre de faire le lien entre ces deux différents pôles, le pôle macro et le pôle micro, pour montrer qu'il y a une unité à la fois dans la démarche du chercheur, mais également dans les résultats, et que le travail épistémique n'est pas censé se faire en une seule fois, par une seule personne. Donc il y a un certain nombre d'éléments du travail épistémique qu'on va pouvoir distribuer, disséminer dans la communauté. Et c'est là-dessus que je conclurai pour faire le lien avec ce que Johan rappelait et qui nous est cher, donc la culture de la disputation, de la discussion académique, mais qui apporte quelque chose et qui ne soit pas simplement discuté pour le plaisir. L'idée, c'est de faire avancer les choses, c'est-à-dire de faire avancer la connaissance vers une connaissance plus fiable. Merci.
Alors, merci Laurent, je fais le monsieur Loyal à distance parce que mon micro ne fonctionne pas. Moi, j'ai déjà des réactions, alors qu'on travaille sur le sujet ensemble avec Laurent, j'ai déjà quelques réactions, et je pense que ce sera intéressant aussi, par exemple, de voir comment Marius sur l'intelligence artificielle, par exemple, imagine ça. Mais d'abord, je passe la parole à Erwan pour le début d'éventuelles disputes.
Merci Yann, merci Laurent. Écoute, je commence. Moi, j'avais plusieurs questions, plusieurs clarifications. Je vais commencer par la hardball tout de suite, carrément. À quoi ça sert ? Un concept, en général, on forge un concept parce qu'il a une utilité analytique. Et là, j'avoue que j'ai du mal à saisir l'utilité analytique du travail épistémique. Autrement dit, on n'utilise pas l'expression « travail épistémique ». Qu'est-ce que ça change à la compréhension des situations qu'on analyse ? Je ne suis pas sûr que, que ça soit évident. Le concept de connaissance, on l'utilise parce que ça se distingue de la croyance vraie, justifiée. Enfin, voilà, il y a des... il faut essayer, si on en reste à la tradition, à la définition traditionnelle, il faut essayer d'englober les différents types de croyances, enfin de saisir les différents types de croyances, non seulement ceux qui sont, notamment celles qui sont vraies et justifiées. D'où la nécessité d'avoir un concept de connaissance. Le concept de travail épistémique, travail scientifique, ça, moi, d'après ce que j'ai entendu, ça résonne pareil, quoi. C'est travail scientifique avec des méthodes quali, quanti. C'est un point, à mon avis, qu'il faut vraiment, vraiment creuser. À quoi ça sert ? Je veux dire, pas sur le plan pratique, hein. Je veux dire, sur le plan épistémique. Donc, il va falloir travailler épistémiquement le travail épistémique pour savoir effectivement quelle est sa portée analytique. Il y avait d'autres petits points.
Je te réponds directement sur celui-ci parce que c'est l'argument majeur.
Vu que tu commences sur un truc soft de l'ordre, ça ne sert à rien. Je propose qu'on rentre dans le mur tout de suite, tant qu'à faire. Et après, on peut aborder les autres points. Donc
ce qui est très important, c'est effectivement de prendre à bras le corps ton argument qui est de te dire effectivement qu'est-ce que apporte le concept de travail épistémique. Et tu, on va dire, rejettes de prime abord en fait l'argument essentiel qui est la distinction entre la connaissance ordinaire et la connaissance scientifique, en faisant premièrement de la connaissance scientifique une évidence, deuxièmement de la connaissance ordinaire un impensé. Et ce qui est intéressant dans le concept justement de travail épistémique, c'est de montrer qu'il y a une forme de continuité, mais également de rupture entre les deux, et de penser la continuité et la rupture simultanément. Pour ne pas tomber dans un échec qui donne souvent la caricature des cours d'épistémologie, où le scientifique serait une personne parfaitement rationnelle en tout point et qui, derrière, a des mécanismes cognitifs qui seraient fondamentalement différents d'une personne ordinaire. Du coup, on est en train de faire perdre un petit peu de son orgueil, on va dire, au chercheur, pour lui rappeler que c'est une femme ou un homme parfaitement incarné dans des conditions matérielles et sociales de son temps. Et donc, ça va influencer sur sa façon de raconter l'histoire. Par exemple, si tu avais fait un DEA d'épistémologie qui n'était pas celui de Dominique Lecourt, est-ce que tu me poserais la question de la façon dont tu me la poses ?
Encore plus, à la limite, là, je trahis le cours. Paix à son âme.
Mais l'idée, en tout cas, c'est de bien montrer justement où est la véritable continuité, où est la véritable rupture. Et très souvent, l'épistémologie a tendance à considérer, même si on a évidemment tout un tas de courants de l'épistémologie ou de la recherche autour de ces sujets qui tendent à montrer le contraire, qu'il n'y a pas, on va dire, une spécificité de la cognition du chercheur. Et donc la grande question, c'est le travail épistémique permet, un, de passer ce premier obstacle, et deuxièmement, par rapport à simplement un mot, on va dire, forme et vague comme connaissance scientifique, la grande question, ce n'est pas le résultat, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Et surtout, qu'est-ce qui nous permet de savoir que oui ou non, on est bien arrivé ou qu'on n'est pas arrivé. Et donc, quels sont les différents éléments qui nous restent à faire. Et c'est toute l'utilité analytique, comme je l'avais dit en tout début, qui se focalise non pas sur le contenu, mais sur le processus, alors que très souvent, on utilise plutôt des analyses de la science comme contenu pour identifier des critères de scientificité Alors que là, on est plutôt en train d'identifier des critères qui sont liés à la forme du travail et du coup à ses débouchés.
Je pense que c'est une excellente réponse. Je ne suis pas d'accord du tout, mais je pense que c'est une excellente réponse. Ça repose sur la discontinuité. La notion de travail épistémique, si je devais résumer, repose sur une discontinuité entre la connaissance commune et la connaissance scientifique. Et le travail scientifique, le travail épistémique, c'est la dimension épistémique du travail scientifique.
Exactement.
Okay. Avec la question de la démarcation.
Avec la question de la démarcation.
Juste clarifier un peu la racine de ta question. Est-ce que le fait que ça ne serve à rien soit forcément un problème pour faire de l'épistémologie et de la philosophie des sciences?
Si vraiment ce qui servait à rien était un problème, il y a longtemps qu'on ne travaillerait plus. À part en tant que prof, je veux dire.
J'ai écrit un texte il n'y a pas si longtemps qui se demandait si les pratiques managériales avaient besoin de philosophie. Est-ce que les pratiques scientifiques ont forcément besoin de philosophie? Et si ce n'est pas le cas, si on a une catégorie analytique qui éclaire les choses...
Là-dessus, je suis très clair, la réponse est non. Les pratiques scientifiques n'ont pas besoin de philosophie. J'ai écrit un papier là-dessus. On n'a pas besoin. Sauf quelques cas particuliers.
Et c'est
Il arrive dans l'histoire de la science que, justement, en général, quand les concepts sont vraiment, vraiment nébuleux, qu'on fasse appel à des philosophes pour essayer de clarifier ça. On a vu un peu ça en sciences cognitives, on a vu ça avec Einstein, quand les notions d'espace commençaient à devenir vraiment, vraiment douteuses. On voit ça aujourd'hui avec l'IA, où on a besoin de philosophes pour clarifier certaines choses. La plupart du temps, non. Mais quand je parlais d'utilité, ce n'était pas l'utilité scientifique. Quand je parlais d'utilité, c'était l'utilité philosophique. Est-ce que la notion de travail épistémique avait une utilité philosophique?
Pour et comprendre,
donc, hein, pour clarifier le projet. Et voilà, et là, je pense qu'effectivement, si on précise qu'on part d'une position discontinuiste, en assumant cette position, moi je suis continuiste, j'assume ma position continuiste, mais si on part d'une position discontinuiste, oui, la notion de travail épistémique fait sens et constitue un concept analytiquement utile dans ce cadre-là.
Je te répondrai deux choses. Premièrement, on n'est pas, on va dire, discontinuiste, parce que la question, c'est à partir de quand advient le changement. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation quantitative qui produit une bascule qualitative. La bascule qualitative est à évaluer. Et donc, la question de savoir si on est soit discontinuiste, soit continuiste, c'est une manière d'être extrêmement aussi réducteur. Ça permet évidemment de catégoriser rapidement. Par contre, il faut prendre l'outil analytique pour ce qu'il est, simplement un outil de tri rapide.
Mais si tu me dis qu'à un moment, il y a une bascule, tu vois, c'est pour moi, de mon point de vue.
Il y a une bascule qualitative.
Quand il y a une bascule, on devient discontinuiste. Ensuite, peut ajouter des éléments continuistes.
Disais que quand tu as une théorie et qu'au début, tu essayes de bricoler ta théorie et qu'elle est fausse, et qu'il y a un moment où tu arrives à faire que ça marche, ta théorie est devenue vraie.
Mais je te dirais que il n'y a pas de différence entre la démarche, de mon point de vue, entre la démarche scientifique et la démarche, tu vois, si je veux savoir si le lait dans mon frigo est avarié, tu peux commencer par regarder, la bouteille de lait a l'air correcte, elle a l'air récente, tout va bien. Puis ensuite, je fais un nouveau test pour bien consolider ma théorie. Je me verse un verre de lait et je le goûte. Et là, je le recrache et manifestement, ma théorie a été réfutée. Donc voilà, mais il n'y a pas de différence de nature entre cette démarche-là qui produit une connaissance concernant la bouteille de lait dans mon frigo et la chromodynamique quantique. C'est juste que la chromodynamique quantique, c'est un peu plus compliqué.
Et on dit exactement la même chose.
Alors dans ce cas-là, tu es continuiste.
Oui, c'est la raison pour laquelle quand tu nous disais discontinuiste, je ne me reconnais pas là-dedans.
Du coup, dans ce cas-là, le concept de travail épistémique pose un problème. Parce qu'il n'y a plus d'utilité philosophique.
Soit une divergence, soit une clarification, mais pour moi, il y a dans la continuité, j'en fais pas un critère de scientificité, mais il y a la question à un moment du rapport à la connaissance existante. Quand tu regardes la bouteille dans ton frigo, etc., il n'y a pas de rapport à la connaissance existante, soit sous forme de rumeurs, soit sous forme d'informations dans les médias, soit sous forme il y a quelque chose qui est direct dans le travail épistémique. Il y a l'idée de travailler la connaissance existante et la sienne. Il y a Marius qui lève la main et qui avait écrit, j'allais lire ce qu'il a écrit dans le... Ouais, mais... je ne vais pas faire un vote pour savoir si je donne la parole à Marius, je donne la parole à Marius.
J'adore l'autoritarisme, donc ça me convient, monsieur l'ex-président, mais le président, le pouvoir de travail. Je me demandais si Jean-Paul Sartre, en l'occurrence, pouvait être utile. Vous savez qu'on a dit avoir une conscience thétique et non thétique des choses. Alors, le terme est compliqué, pas utile, mais simplement quand tu vas prendre ta bouteille de lait, etc., tu vas prendre ta bouteille de lait pour voir si elle est bonne, mais sans te prendre conscience et réfléchir aux méthodes que tu mobilises pour aller prendre ta bouteille de lait. Et la différence entre faire du vélo et pendant que tu fais du vélo, tu prends conscience que tu es en train de faire du vélo. C'est ce décrochage réflexif que la phénoménologie aime bien travailler. Est-ce que votre débat, il n'est pas à ce niveau-là? Parce que d'ailleurs, entre continuiste et discontinuiste, c'est à ce niveau-là, non, la question est différente.
Je vais prendre un autre exemple que la bouteille de lait, parce que la bouteille de lait, effectivement, tu peux avaler un petit verre de lait avarié, ça ne va pas. Mais prenons l'exemple des œufs. Des œufs dans le frigo. Si les œufs sont avariés dans le frigo, là, tu vas avoir une réflexion très approfondie sur la méthode pour tester si les œufs sont avariés ou pas. Parce que tu sais que si tu avales un œuf avarié, ce n'est pas juste que ça va être mauvais, c'est qu'il va passer un sale moment. Donc, du coup, tu vas tester tu vas mettre tes œufs dans un bol d'eau et puis voir s'ils flottent. Et tu as toute une méthode pour tester si les œufs sont avariés ou non. Donc, je ne pense pas que la différence soit sur le plan de la réflexivité et la capacité, effectivement, à réfléchir à son acte quand on produit de la connaissance concernant soit les œufs, soit le lait.
Pour moi, il y a une idée de la réflexion. Parce que si je prends juste le cas de l'œuf, si cette méthode-là, je la connais. D'ailleurs, je n'ai jamais réfléchi pourquoi elle est bonne ou pas. Je l'ai vu faire, je la fais continuellement. Je ne décide même pas, je ne pense pas. Je suis dans la pure action. J'ouvre, je prends mes œufs, je la mets dedans et je ne suis pas en train de réfléchir à la méthode. Donc, moi, je reviens, c'est que mon décrochage réflexif, il est utile, peu importe le...
Est-ce que quand tu utilises, je ne sais pas, si tu fais des études quanti en business, non, tu ne fais pas d'études, un collègue qui fait des études quanti, hélas, souvent, emploie des instruments, enfin, hélas, je ne suis même pas sûr que ça soit hélas, dont il n'a pas forcément questionné. Quand on fait quand on utilise SPS pour faire de l'analyse factorielle, on sait comment le faire, on a un mode d'emploi, mais on n'a jamais réfléchi au contenu mathématique et statistique qui justifie cette méthode. Pas plus que quand je teste les œufs, je sais pas pourquoi effectivement les œufs montent quand ils sont pourris, quoi. Donc, je ne suis pas certain non plus là que la différence soit si nette.
Si je reprends...
Je joue mon rôle de chieur, hein, je suis désolé, hein, mais c'est
ma question. Très bien. Pour un rôle de composition.
Un peu plus sérieusement, la question que Marius pose, me semble-t-il, est la bonne. Ce qui nous intéresse, c'est pas de tomber ni dans l'extrême, on va dire, d'une caricature du continuisme, ni dans l'extrême d'une caricature du discontinuisme. C'est-à-dire, c'est pas parfaitement continu homogène parce qu'on n'a pas les mêmes normes. Maintenant, après, est-ce qu'on utilise des mécanismes cognitifs radicalement différents dans la connaissance ordinaire et dans la connaissance scientifique? La réponse est non, puisqu'on a la même cognition. Après, la question, c'est le degré, on va dire, d'exigence sur les produits de cette cognition, et autrement dit, la qualité du travail épistémique. Du coup, où situe la vraie démarcation? C'est sur quelque chose que tu rejettes d'emblée avec ta question initiale, qui est de dire quel est l'intérêt philosophique. On ne s'est pas du tout posé sur la problématique d'une contribution à la philosophie. On s'est positionné sur la contribution au travail du chercheur. Donc, au lieu d'avoir une position exogène qui est celle que tu as implicitement en te mettant du côté de la philosophie, qu'on ne mobiliserait que par exception, etc., autrement dit, faire appel à des experts ou à des points de vue suffisamment différents mais externes à la discipline, on s'est positionné d'un point de vue qui est endogène. Et l'intérêt, c'est justement d'avoir cette analyse endogène qui revient donc à ce que disait justement Marius sur la question de la réflexivité et qui permet d'introduire une réflexivité native dans, on va dire, les sciences afin de pouvoir nourrir les sciences et, si possible, faire, on va dire, plus intéressant et donc, en quelque sorte, mieux de sciences que ce qu'on faisait à l'origine, et notamment par rapport à la pratique de la recherche telle qu'on la connaît dans les milieux académiques, où on a très souvent, on va dire, un méthodologisme où on ne parle même plus de ses idées, de ses postulats, mais on se définit d'abord par rapport à sa méthode. Et la question de la réflexivité qui est liée au travail, de la réflexivité sur sa pratique et donc au travail épistémique, nous permet de montrer l'inanité, on va dire, de la position, mais aussi et surtout de proposer des voies pour en sortir et de donner, on va dire, à la fois du grain à moudre et potentiellement des outils pour les chercheurs qui souhaiteraient améliorer la qualité de leur recherche en pointant vers l'amélioration du travail épistémique.
D'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais juste... J'entends parfaitement, hein, j'entends parfaitement. C'est voilà, une réponse que j'entends tout à fait. Est-ce que tu pourrais juste préciser la distinction dans ce cas-là entre travail épistémique et méthodologie?
C'est extrêmement simple. La méthodologie est fondée sur un seul des aspects du travail épistémique où, du coup, voilà, on est en train de regarder, on va dire, le terrain. Donc, on est déjà plutôt du côté, on va dire, de l'empirique que de la théorie. Le travail épistémique relie définitivement la théorie et l'empirie et va prendre en considération, en gros, trois choses. La théorie, d'une part, avec sa structure interne logique et donc les aspects ontologiques, les présupposés, les postulats, les axiomes sur lesquels les théories se fondent. La partie empirique, c'est là où normalement le plan méthodologique arrive puisqu'il permet de régler le questionnement de terrain pour justifier premièrement de la fiabilité des données, deuxièmement de la pertinence et du coup un traitement qui soit considéré comme étant effectivement de bonne facture pour produire de la connaissance. Et troisièmement, le lien entre la théorie et l'empirie qui est potentiellement le lien de l'épistémologie. Ce qui fait que dans le travail épistémique, on est en permanence en train de relier ontologie, épistémologie et méthodologie et de façon explicite, ce qui permet de clarifier les problèmes pour savoir où ils sont ou ne sont pas et d'être capable du coup de trouver de meilleures voies de sortie quand on est dans une ornière.
Tu veux dire que tu voudrais demander aux chercheurs de faire de l'ontologie?
C'est la raison pour laquelle la question n'est pas de faire de l'ontologie, puisque certains l'entendent comme étant simplement de la métaphysique. On ne fait pas de la métaphysique pour faire de la métaphysique, surtout quand on est endogène à une discipline. En revanche, avoir un questionnement sur ces postulats, sur les partis pris sur le réel qu'on tient pour acquis, autrement dit sur sa propre culture et ses présupposés institutionnels, est très important parce que potentiellement ça devient bloquant pour, j'allais dire, le développement théorique. Là, après, on pourrait rapidement passer aux auteurs ultra-classiques de l'épistémologie comme Lakatos, la méthodologie des programmes de recherche, le contradicteur Feyerabend, etc. La question, ou reprendre tout simplement, encore beaucoup plus simple, le concept de blocage épistémologique de Bachelard, pour montrer que c'est en se focalisant sur la science en train de se faire, comment les chercheurs font la science, qu'on est capable aussi de voir pourquoi à certains moments ils se sont enfermés dans des impasses. Or, en levant la tête, en revenant à un questionnement, on va dire, d'un niveau un peu plus élevé, par exemple, sur les fondements et les postulats, ils peuvent se rendre compte qu'effectivement, ils sont au fond de l'impasse et que la solution n'est pas dans cette direction. Donc, la question, elle est celle d'amener de la réflexivité et une réflexivité qui prenne véritablement en compte les cadres mêmes de la pensée. Autrement dit, que est-ce qu'on va avoir, entre guillemets, une axiomatique dominante, comme c'est le cas, ça n'a rien de nécessaire. On n'a jamais eu ce problème-là dans un certain nombre de sciences. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément l'axiomatique unique et révélée. Il peut y avoir des axiomatiques, on va dire, concurrentes. Et c'est de la fertilité de ce corpus théorique lié à un travail épistémologique qui va déboucher sur une recherche de bonne qualité qui va être intéressante et qui va apporter quelque chose plutôt que de faire la 101e étude de réplication où on sait toujours plus de la même chose. Je rappelle qu'en psychologie, toujours plus de la même chose, c'est un autre nom pour désigner la névrose. Et donc, du coup, c'est ça l'intérêt, on va dire, pratique pour le chercheur du travail épistémique. qui est, je le répète, endogène à la discipline, même s'il peut bien sûr être aussi comparé entre disciplines. On a le droit de s'inspirer des bonnes façons de faire ou des idées des autres corpus, et les sciences de gestion qui empruntent à peu près tout le monde en sciences sociales, dont évidemment ne sont pas les dernières concernées. La grande question, du coup, c'est comment faire finalement mieux de sciences en étant réflexif sur le travail épistémique individuel et collectif produit.
Il y avait une autre question.
C'est juste très rapidement pour moi sur la question de l'utilité. Elle est vraiment là. C'est-à-dire, elle n'est pas descriptive, elle n'est pas analytique, parce qu'effectivement. Ça ne dit pas grand-chose de plus que ce qu'on pourrait dire ailleurs, que de dire que les scientifiques font un travail et qu'après, continuité, discontinuité, démarcation, pas démarcation. Son utilité, elle est aussi dans le rappel à l'ordre ou l'appel à la réflexivité nécessaire en disant le travail scientifique, ce n'est pas juste lire des textes, en faire une synthèse, suivre une méthodologie acceptée dans le champ, analyser en suivant les guides dans les manuels, et puis ensuite écrire tout ça. C'est un devoir de vigilance sur la connaissance produite par les autres et sur la connaissance qu'on accumule et les biais qu'on peut construire. Pour moi, là, par rapport à ce que disait Laurent, l'utilité, entre guillemets, elle est là, dans une forme de... Et, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, merci pour la précision. Le deuxième point, c'était sur la dimension de réception du travail épistémique, dimension sociale, en fait. Mm-hmm. Et j'ai peur que ça alterne entre relativisme et platitude. À nouveau, hein, j'y vais à la serpe. Relativisme, bah oui, si le travail épistémique, la production de connaissances dépend de la manière dont ce travail est reçu, si je peux produire une théorie tout à fait vraie qui est mal reçue, ça restera une théorie vraie. Hein.
Mais elle ne sera pas justifiée.
Ah non, elle pourrait être parfaitement justifiée, non. Non, rien à voir.
Non, parce que tu fais de la justification justement un critère logique.
Or, pas logique, non, pas du tout, absolument pas, non, mais si effectivement j'ai des
expériences,
la corroboration, c'est pas un critère logique, si elle est à peu près cohérente, si intuitivement elle me semble répondre aux questions que je me pose, ben, voilà, il y a plein de critères qui sont pas du tout logiques, le fait ensuite qu'elle soit acceptée ou pas par une communauté, ça a aucun intérêt pour la dimension strictement épistémique. Ça ne change rien.
Et c'est là où je pense qu'on a justement un point d'achoppement important, c'est-à-dire le fait que tu regardes la théorie de façon complètement interne, sans la version justement de la légitimation sociale externe. La légitimation sociale externe fait effectivement partie des critères importants pour comprendre le travail épistémique. Pourquoi ?
Pour comprendre, pas pour le faire.
Non, pour le faire aussi, et je vais t'expliquer pourquoi. La première des choses, c'est que...
Tu ne vas pas m'expliquer pourquoi, tu vas me dire pourquoi.
Non, je vais expliquer pour toi. J'entends bien avoir justement un mécanisme que j'expose et dont j'explique la causalité. Le principe de la théorie, ce n'est pas simplement avoir la cohérence interne logique où à la fin, je dis quelque chose qui est vrai et que ce soit accepté par une communauté ou non, ce n'est pas mon problème. Qui est la version la plus simple de ce que tu viens de dire, à mon avis. C'est une version internaliste qui est tout à fait valable. Pourquoi tu avais peur de la tentation relativiste ? Parce que tu te dis que si la validité se fait non pas sur des critères, on va dire, logiques, mais sur...
Oublie la logique.
Non, j'oublie pas la logique.
Je suis anti-logiciste.
Pour l'instant, dans ce que tu me dis, tu ne peux pas
non,
me dire...
Non. Si mon évaluation d'une théorie repose purement sur mon intuition, ce qui n'est quand même pas du tout logique, hein, mais qui reste une dimension de l'évaluation épistémique d'une théorie, ça ne dire le fait qu'ensuite elle soit acceptée ou par une communauté ou pas, on s'en fiche.
Non, justement, parce que
Là,
si
ensuite,
ta théorie n'était pas acceptée par la communauté, pour l'instant, ta théorie n'a donc aucun statut logique puisqu'elle est juste fondée sur ton intuition, mais à l'intérieur, tu as quand même dû me donner quelques éléments qui me permettaient d'aller dans le sens de cette croyance. Autrement dit, tu as fait un travail de justification qui va consister à m'apporter des arguments, des faits, les relier, donner un cadre potentiellement permettant de lier les éléments et les relations. Autrement dit, peut-être d'esquisser, on va dire, une causalité, même si la causalité n'est pas démontrée, soit. Mais si cette intuition n'était pas du tout validée par qui que ce soit, ça veut dire que ça n'est pas une théorie scientifique, c'est juste une idée que tu as dans ta tête.
non, pas du tout, pas
Or,
du tout.
la validation,
Pas du tout.
si.
Si tu Robinson Crusoe peut produire des théories
Oui, mais pas
scientifiques très
scientifique.
élaborées.
Non, pas
Robinson
scientifique.
Crusoe peut, par exemple, produire une théorie scientifique très élaborée sur la taxonomie des noix de coco sur son île. Il a
Qu'est-ce qui
besoin de
fait?
personne pour la produire. Ensuite, ce que la communauté peut apporter, c'est effectivement une discussion qui mettra à l'épreuve la théorie de Robinson.
Et qu'elle est
Mais
fondamentale.
la validité elle-même, si Robinson est un génie absolu, il peut avoir proposé une taxonomie de ces noix de coco qui résistera à toutes ensuite les arguments que pourrait lui opposer une communauté. Et dans ce cas-là,
Donc,
la théorie de
elle
Robinson aura été
a
vraie avant même qu'elle a été mise à l'épreuve par la communauté.
Donc, elle a été avec un examen parfaitement logique. Tu es en train de montrer que
Non,
tu
je mets la logique complètement à côté.
Ah non,
Je
non,
mets
non,
la
pas
vraie
du tout.
logique.
Puisque sa taxonomie, elle était précise, elle n'a pas émergé, on va dire, ex nihilo comme Athéna qui sort de la cuisse de Zeus. Elle a été forgée au fur et à mesure. Et donc, en fait, on est bien dans une démarche de réflexion qui a une logique interne.
Bien sûr.
On prend le au sens de logique interne, si tu veux, plutôt qu'au sens de la logique formelle. Mais dans tous les cas, tu as cette logique interne. Or, ce que rajoute le travail épistémique, c'est que on a besoin justement dans la justification de la validation externe. Pourquoi?
Non, enfin,
Premièrement,
on a besoin. Essaie de me dire ce que tu veux dire par on a besoin. Qu'est-ce que ça veut dire on a besoin?
c'est ce que j'allais illustrer. Alors, voilà, si tu me laisses
Pardon.
finir. Donc, la première des choses, c'est on a besoin de la validation externe déjà parce que les autres, la communauté, sont un mécanisme de rattrapage des erreurs. Je peux avoir fait un raisonnement et m'être simplement trompé par inadvertance ou simplement parce que j'ai commis un impair à X ou Y endroit. Ça, c'est la première des choses. L'autre élément, c'est que la communauté vient me donner du coup un retour qui n'est pas homothétique, qui n'est pas analogue à moi-même et qui, en apportant de la différence, peut venir nourrir mon travail épistémique et donc enrichir la théorie. Troisième chose, le retour donné par la communauté peut être positif, entre guillemets, pour le caractère, on va dire, scientifique de la théorie, comme il peut être négatif. Si je suis dans un lieu, une culture, un temps ou une institution qui, on va dire, est réticent sur certaines idées, on peut au contraire conduire au blocage de la connaissance. Quel est l'intérêt du
Évidemment.
travail épistémique? C'est que en allant sur la réflexivité individuelle et collective, on va également être capable de positionner les éléments de croyance normative des gens, c'est-à-dire les nôtres en tant que chercheurs en propre, mais également ceux des gens dans la communauté, ce qui nous permet de voir quels sont entre guillemets les vrais arguments, si ce sont des arguments qui se tiennent, ou au contraire si ce sont des arguments qui sont des arguments d'autorité sociale. Donc à la fois ils nous permettent de bénéficier d'un travail de solidification, ou plus exactement de fiabilisation de la connaissance, deuxièmement enrichir la diversité. Troisièmement, être capable de mieux identifier les éléments de blocage potentiellement institutionnels, donc sur les niveaux des croyances qui sont justement au niveau ontologique. Et c'est ce jeu d'aller-retour, ce travail individuel et collectif qui permet d'aider à fiabiliser au final la qualité du produit du scientifique de façon individuelle et collective.
Donc tu me dis que la communauté va aider à produire des théories plus cohérentes et plus empiriquement soutenues.
Non, je dis qu'elle peut y contribuer et
Elle peut
que
contribuer.
elle peut y contribuer, ce qui ne veut pas dire qu'elle va le faire. On a le droit d'avoir le chercheur
Je
autonome
vois,
génial.
ouais. Mais c'est ça l'intérêt, de la communauté.
Mais donc c'est pas un conditionnement.
Ben oui, mais du coup, il y a un
Et
problème.
la
Mais
condi
du coup,
attends.
Robinson,
il peut faire sa théorie scientifique tout tout seul sur son île.
Non, parce que la science, c'est quelque chose qui est censé être public et diffusé. Autrement
dit, je vais donner un contre-exemple. Ce n'est pas Robinson Crusoe sur son île, c'est Grégor Mendel. Mendel, ses expériences, il les a faites dans son coin tout seul. Sa théorie sur l'héritabilité des traits des petits pois, il l'a développée tout seul dans son coin, vraiment tout seul pour le coup. Il a essayé de communiquer avec ses pairs, rien à taper. Quoi. Donc il a fait sa théorie tout seul. Est-ce que pour autant on considère que Grégor Mendel n'était pas un scientifique? Non.
Tu es en train de changer le débat, non plus sur est-ce que Grégor Mendel a fait du travail épistémique, puisque la réponse est oui, mais la question c'était sur l'intérêt du concept de travail épistémique. Deuxième chose sur Grégor Mendel. C'est la deuxième chose sur Grégor Mendel qui est importante à dire compte tenu de ce qu'on vient d'échanger comme point de vue auparavant, c'est le fait qu'aujourd'hui, la théorie de Mendel, elle n'est plus considérée comme étant d'actualité. Donc, elle a bien fini par avoir une diffusion avec la communauté avec laquelle elle est rentrée dans un dialogue plus ou moins fructueux, qui d'ailleurs fait qu'aujourd'hui, elle n'est plus enseignée dans les classes de biologie, parce qu'on sait
que... Toutes les théories scientifiques sont fausses, on ne parle pas de ça, la question de départ, c'était sur le côté relativiste, tu disais que le travail épistémique reposait intrinsèquement sur une dimension de réception, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire de la connaissance sans réception. Grégor Mendel est un exemple.
La question de la réception de la connaissance, la première question, c'est la définition de ce que c'est que la science. Est-ce que le concept de publicité, c'est-à-dire le fait que la connaissance est diffusée, fait partie de la science? Et en fait, c'est là-dessus où, dans la version la plus communément admise de la science, il n'y a pas de science tout seul. La science, c'est justement quelque chose qui est entre guillemets un bien commun, qui se partage, ce qui veut dire qu'il y a une dimension de publicité.
C'est la version communément admise depuis Chépine et Schaeffer et depuis 40 ans où on répète ce genre de choses comme des évidences, mais ça ne les rend pas
plus mal. C'est la raison pour laquelle je te demande ta définition. Moi, je suis
parti. Je n'ai aucune définition de la science. Si j'avais une définition de la science, je crois que j'aurais tous les prix de la Terre. Mais je sais qu'on peut faire de la science sans communiquer.
Soit tu as une définition de la science, soit tu
n'en
as pas.
Non, absolument pas.
S'il n'y a pas de définition, tu ne peux pas dire ça.
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir une définition. À chaque fois, je prends cet exemple avec les étudiants. On peut très bien savoir que. Prenons l'amour. Tu vois, je prends cet exemple. Est-ce qu'on connaît la définition de l'amour? Non, on n'est pas la définition de l'amour. Mais je sais que l'amour, ça ne se mange pas. Tu vois, c'est juste que je ne vais pas essayer de digérer de l'amour. Bon, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que non. Ben, la science, c'est pareil. Bien sûr, je n'ai pas de définition, mais je sais qu'on peut faire de la science sans communiquer.
Et je te dis que...
Ce n'est pas le plus courant. Je n'ai pas dit que c'était la bonne chose à faire. Hein. Évidemment que la science est une institution... C'est une communauté, c'est des échanges. Je suis au courant.
Donc, tu es en train de lui donner tout un tas d'éléments de définition.
Sur le plan épistémologique, il n'y a aucune nécessité. Rien ne dit qu'on doit être plusieurs pour faire de la science. On peut être tout seul. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais les langages, oui, mais il a fallu apprendre par ailleurs, blablabla. Oui, non, mais OK, d'accord. Mais concrètement, on peut faire de la science dans son bureau sans avoir qui que ce soit avec qui échanger. Et je donne l'exemple de Grégor Mendel. Grégor Mendel, il a fait de la science, ça a été reconnu, sa théorie est fausse, toutes les théories sont fausses. Il a fait de la science, il a fait avancer la connaissance, il a fondé la génétique tout seul.
Et je te dis non, et j'explique pourquoi.
Ah bah, t'as un scoop en histoire des sciences. Hein.
Non.
Juste avant, on veut la réponse. Pour les autres, si à un moment vous voulez intervenir, je pense qu'on est sorti du cadre de la discussion conscrite jusqu'à midi, Laurent. Vous levez la main et je prends M. Lalonde. Ouais, donc Laurent va répondre et voilà. Du coup, Philippe lève tout de suite la main. Donc, Laurent, tu
réponds. Lève les deux mains, Philippe.
La
première des choses est que tu pars d'un concept qui est logiquement faux, qui est que tu n'as pas de définition de la science. Ça, ce serait être parfaitement relativiste, ce qui effectivement pour toi, Erwan, te va très bien d'être parfaitement relativiste.
Provocateur.
Bien sûr, mais après, tu la joues en provoque, il faut te retourner la balle de la même manière. La première des choses, c'est qu'en fait, tu as extrêmement besoin de la définition de la science, et parce que tu as une foultitude de définitions de la science. Quitte à définir la science non pas par ce qu'elle est, c'est-à-dire en direct, en propre, mais parce qu'elle n'est pas. Et effectivement, c'est un mode de connaissance habituel de tous les objets. On ne sait pas forcément ce que c'est, mais on sait que ce n'est pas. Si on ne sait pas ce que c'est que l'amour, peut-être, mais par contre, on a une idée d'autres choses où on est sûr que la haine, par exemple, ce n'est pas de l'amour. Ensuite, après, il y a des jeux de contraste et d'opposition. Tous ces jeux de contraste, d'opposition qui sont du domaine implicite font partie de la culture. Cette culture, elle est collective. Elle fait partie de la partie institutionnelle. Ce qui fait que tu en aies conscience ou pas, que Grégoire Mendel en ait conscience ou pas, il était de fait en dialogue avec, on va dire, la culture et l'histoire de son temps et de son lieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle la dimension dialogique est importante. Et un des points fondamentaux du travail épistémique, selon moi, c'est le fait que le chercheur est toujours déjà socialisé, et que cette socialisation ne doit pas être un impensé, mais doit être au contraire quelque chose qui doit être explicité de façon réflexive et travaillée. Et que même s'il était tout seul dans son coin, il a à examiner les présupposés de sa propre démarche. Deuxièmement, quand tu dis « il a fait de la science dans son coin », non. Au début, quand il n'a pas diffusé ses résultats, c'est-à-dire quand les théories de Mendel sont restées simplement sur ses carnets, est-ce que c'était de la science ? Et la réponse est non, parce que pour l'instant, il n'y a pas la question de diffusion. J'entends bien, hein, c'est-à-dire que le critère de publicité, de diffusion ne fasse pas partie de ta définition de la science, je peux tout à fait l'entendre, mais comme on sait en philosophie, penser par soi-même, ça n'est pas penser seul. D'ailleurs, en fait, on ne pense jamais seul, puisqu'on est toujours déjà socialisé, au moins dans l'état où nous sommes. Donc ça, c'est... un point important. La deuxième chose, c'est la réception scientifique. Est-ce que la réception par la communauté, elle a besoin d'être immédiate ? Absolument pas. On a des vieilles expériences qui étaient tombées aux oubliettes, si ce n'est dans les poubelles de la science, qu'on va ressortir, on va dire, à distance spatio-temporelle potentiellement très élevée, et qui va être considérée comme étant la révolution à côté de laquelle la communauté était passée. Et j'insiste sur le fait que la communauté... elle peut avoir un rôle qui est à la fois habilitant, mais aussi elle peut avoir un rôle débilitant, elle peut avoir un rôle bloquant, c'est-à-dire le fait que, au lieu de favoriser l'émergence d'une certaine théorie, elle va au contraire la fermer, et là l'outillage de base pour décrire et expliquer, c'est celui de la kathos. Troisième chose, sur la réception de la théorie, est-ce que le fait que la communauté donne son avis, qu'il soit favorable ou défavorable pour X ou Y raison, va entacher, on va dire, la construction interne logique de la théorie ? La réponse est non. Par contre, elle permet éventuellement de révéler des défauts de construction interne ou des défauts de relations externes avec des théories hors sol. Et c'est ça l'intérêt, justement, de façon dialogique et en dialogue. Est-ce que ça fait de nous des relativistes ? Non, parce que derrière, le but du jeu, c'est effectivement, non pas de dire que tout est bon, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est mon opinion, ça c'est une opinion proprement relativiste, mais de dire que tous les moyens de preuve sont intéressants. Autrement dit, que je peux avoir une très grande diversité de points de vue, élaborer un très grand nombre de théories, mais toutes les théories ne se valent pas. Le travail épistémique, puisqu'il est fondé sur l'idéal régulateur de la vérité in fine, on ne peut évidemment pas dire du tout qu'on peut avoir une quelconque tentation relativiste, parce que, très clairement, nous affichons d'emblée le fait que toutes les théories ne se valent pas. C'est d'ailleurs la rupture, entre guillemets, hein, on peut voir si la rupture elle est plus ou moins douce ou elle est plus ou moins graduelle, avec la connaissance ordinaire pour la connaissance scientifique.
Oui, il y a plein de choses sur lesquelles on peut être tout à fait d'accord sur ce que tu viens de dire, mais il y a un point qui nous distingue, c'est que pour moi, les carnets de Mendel, c'était de la science. Toi, tu as dit que ce n'était pas de la science. We agree, we disagree, et je pense qu'il y a Philippe qui avait une question.
Voilà, il y a Philippe, à mon avis, Philippe, sa réaction va être liée à ça.
une question un petit peu de néophyte. Moi, je vous écoute avec beaucoup de plaisir, d'intérêt. J'apprends les choses très, très modestement. Mais je me demande si à un moment ou à un autre, ce qui fait qu'une théorie est vraie ou fausse, et j'ai bien entendu vos débats entre ce qui était la part de la communauté ou pas dedans, est-ce que ce n'est pas l'expérience du réel, en fait le réel, en revenant à l'étymologie, donc la chose qui a donné aussi résiste, la chose qui résiste. Donc quand on fait des théories qui sont fausses, finalement on se prend le mur du réel à un moment ou à un autre. Donc est-ce que le terme de réel ne peut pas aider la réflexion que vous menez?
Philippe, la question que tu poses est évidemment fondamentale. La réponse doit être absolument nuancée sur la posture. Comme tu l'as très gentiment précisé en introduction, tu t'es posé du côté néophyte. Il faut expliquer pourquoi c'est une position qui est potentiellement intéressante, séduisante de prime abord, mais aussi potentiellement dangereuse. La réponse ultra rapide à la question, c'est la réalité crie non à une théorie qui est fausse. Et je te demande, quand est-ce qu'est la dernière fois que tu as entendu crier la réalité ? Ou le réel ?
Alors, il m'arrive de faire des introductions à mes cours d'éthique, RSE, ce genre de choses, donc je leur parle du réel. Et donc, certains étudiants me disent, oui, mais tout ça n'est-il pas un produit de la pensée ? Donc, dans ce cas-là, ce que je leur propose, c'est alors que la porte est fermée, de nous dire que la porte est ouverte, d'avancer la tête baissée, les bras derrière le dos, et de voir ce qui se passe, en fait. Et donc, la porte est ouverte, alors qu'elle est fermée, on se rend bien compte qu'à un moment ou à un autre, c'était une fausse théorie, en fait. Tu vois. C'est comme ça que je la fais percevoir, en tout cas, peut-être en me trompant moi-même, hein, je n'ai pas toutes les ressources. Personnel et théorique, et voilà, je ne me suis pas assez penché sur le sujet. Mais en tout cas, la personne qui me dit, voilà, finalement, chaque chose, ça dépend de la manière dont on la voit, dont on la pense, etc. Bah oui, mais dans ce cas-là, si tu dis que la porte est ouverte, vas-y, j'attends de voir ce que ça donne, quoi, voilà.
Et c'est un exemple pratique des plus intéressants, mais la première des choses, c'est quitte à crier que la théorie était fausse, l'étudiant qui aura mal à la tête quand il aura plongé la tête la première sur la porte fermée. Donc ce qui est intéressant, c'est que les personnes, entre guillemets, qui te répondent, ce n'est pas le réel. Ce sont des gens qui se confrontent au réel. Donc on a quelque chose qui est lié à l'expérimentation et au fait que l'expérimentation n'est jamais, on va dire, dissociable du coup des chercheurs qui font les expériences. Et c'est sur cette dimension de tissu social et d'interrelation que j'entends en tous les cas faire porter l'attention dans mon exposé du jour. La question du réel qui résiste, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant, mais de dire qui résiste à qui. Et surtout, là, tu donnes un exemple qui est extrêmement simple, puisque c'est un exemple physique, c'est un exemple, on va dire, basique sur lequel il va être difficile de dire qu'effectivement, si je ne passe pas à travers la porte qui est fermée, c'est manifestement, en tous les cas, que ça réfute le fait qu'elle était ouverte. Qu'en est-il pour des théories plus complexes ? Qu'en est-il pour des théories qui ont en lien avec, par exemple, la performance des organisations, le management public, les théories en général de toutes les sciences sociales? Est-ce qu'on est capable de les tester? Faut-il voir un régime politique comme étant un test ou un crash test d'une quelconque forme de programme politique? Donc la grande question ici, c'est de s'apercevoir que l'efficacité ou la performance va avoir une dimension éminemment subjective, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'évaluation. Et que, sauf à être parfaitement d'accord sur les critères, à avoir des critères qui soient parfaitement, on va dire, objectivables, ça va être extrêmement difficile d'avoir des évaluations qui soient identiques. Et donc, c'est là où Erwan pointe sans doute aussi la tentation relativiste, c'est-à-dire, est-ce que je peux juger de la vérité de quelque chose à l'applaudimètre ? Est-ce que c'est parce que tout le monde est d'accord que c'est vrai ? Et la réponse scientifique, c'est non. Tout le monde peut dire que quelque chose est vrai alors que c'est faux, et je peux être le seul scientifique à dire que quelque chose est vrai quand tout le monde clame que c'est faux. Ça n'est pas un problème. L'intérêt du travail épistémique, c'est justement de mettre en relation et de se poser la question, pourquoi tout le monde dit que c'est faux alors que c'est vrai, et pourquoi celui-là dit que c'est vrai alors que c'est faux, et vice-versa. Donc l'idée, c'est l'analyse potentielle à toutes les échelles. Le réel, de surcroît, n'est pas un objet, on va dire, épistémique simple, pour une raison très simple, c'est que, en fait, c'est un fondement ontologique. C'est-à-dire que dès que tu es en train de parler de ton rapport au réel ou de ce que tu penses qu'est le réel, c'est en fait une proposition axiomatique qui va avoir des conséquences partout dans ton raisonnement et donc qui est de niveau ontologique. Et là, pourquoi je disais tout à l'heure que c'était dangereux justement de dire le réel, c'est ce qui résiste, c'est parce que effectivement, ça résiste à l'épreuve de l'évaluation ou à l'épreuve des faits. Quand c'est un exemple aussi simple que celui de se casser la tête sur la porte, c'est effectivement une dimension factuelle. Quand c'est sur des théories plus complexes de type sens social, c'est très facile de coller, sans s'en apercevoir, de l'idéologie là-dedans. Or, évidemment, l'idéologie pure n'a pas de science, n'a pas de sens, pardon, dans la science, ou sauf à dire que la science, ce serait l'idéologie de la vérité.
Alors, si je peux ajouter mes 50, mes 50 cents, pas si on a le temps, Johan, c'est toi le patron.
Quelle heure il est ? Si on a encore 20 minutes.
Okay. Oui, non, l'histoire de la réalité qui résiste, c'est super piégeux parce qu'effectivement, ça convoque, c'est ce que disait Laurent, hein, je suis d'accord, ça convoque des questions métaphysiques. Et quand on commence à parler de métaphysique, oh là là, oh là là, on n'a pas fini. On s'engage parce qu'on parle du monde derrière les apparences. On a envie de parler de ce qu'il y a derrière les apparences, ce qui est vraiment vrai, vraiment réel. Ouais, bon, ouf. En fait, pour ce genre d'étudiant, c'est mieux qu'il te pose des questions. Oui, mais monsieur, est-ce que la réalité existe? Premier jour, premier cours de philo. bon, on ne va pas parler de réalité. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que oui, il y a des trucs qui résistent. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça revient d'ailleurs un petit peu à ma question de définition. Hein. Dès qu'on commence à vouloir définir le réel, définir la vérité, là, on est perdu. Par contre, tu dis, OK, mais effectivement, il y a des choses qui résistent. Et à partir de ces choses qui résistent, on peut apprendre. Effectivement, la porte qui est fermée, bah, elle va résister. Mais ça vaut aussi pour les théories les plus complexes. Sauf que c'est plus subtil. Il y a des choses qui résistent, plus ou moins fort, voilà, de manière différente. Et ça nous renseigne sur la valeur de la théorie. En fait, je t'enverrai ma HDR, parce que c'est le cœur de ma HDR. J'appelle ça des défaiseurs. Quand tu as une idée, une théorie, quelle soit, eh ben, tu vas avoir différentes formes de défaiseurs de ta théorie. Et tu vas essayer de soit les neutraliser, soit les défléchir. Et bah, plus il y a de défaiseurs, plus tu peux effectivement te dire qu'il y a un problème avec ta théorie. Bah, et l'exemple classique, c'est celui du copernicianisme et du ptolémaïsme. Avant Copernic, on plaçait la Terre au centre de l'univers et autour les planètes. Le problème, c'est que la manière dont les planètes se meuvent dans le ciel... très bizarre, il y a des phénomènes de retour comme ça, voilà. Et donc du coup, les astronomes ont dû inventer ce qu'on appelle des épicycles, tu as dû entendre parler de ça, des épicycles pour essayer de rendre le système ptolémaïque utile pour prédire la situation, la position des astres dans le ciel, ce qui était utile d'ailleurs pour l'Église. Et le problème, c'est qu'il fallait refaire des épicycle sur épicycle sur épicycle, et tout ça, c'était des défaiseurs, des signaux que la théorie marchait mal. Et quand Copernic est arrivé, et qu'il a placé, lui, effectivement, le Soleil au centre du système solaire et les planètes tournant autour, il a pu se débarrasser de tous ces épicycles. Et ça signalait que sa théorie était plus vraie que celle de Ptolémée. Alors attention, il y avait d'autres problèmes. Il y avait plein de problèmes. Par exemple, les orbites n'étaient pas circulaires. Le fait que la Terre était immobile, c'était évidemment que la Terre se mouvait autour du Soleil, c'était évidemment absurde. Hein. Parce que si la Terre bougeait, on le sentirait, quoi. Évidemment, je me place du côté d'un homme du XVIIe siècle. Hein. Mais un homme du XVIIe siècle, hein, bon, les femmes, c'était autre chose, hélas. Mais bon, je, ferme la parenthèse. Donc, l'homme du 17e siècle qui avait la parole à l'époque, eh ben, il disait ben, c'est idiot quand même que la Terre bouge. Parce que si la Terre bougeait, on le sentirait. Et ça, c'était un défaiseur de la théorie de Copernic. Et il a fallu des décennies et des siècles, en fait, pour que les défaiseurs de la théorie de Copernic, ben, on puisse les expliquer. Et aujourd'hui, ben, y a plus vraiment de défaiseurs de la théorie héliocentrique. Mais voilà, c'est l'idée qu'il y a des choses qui résistent, effectivement, et qui nous renseignent. Est-ce que ces choses, c'est la réalité? Don't know, don't care. Enfin, ben, je ne suis pas métaphysicien. Les métaphysiciens, ça les intéresse beaucoup. Moi, ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Peut-être qu'on est dans une grande simulation. Il y a pour la science là, qui vient de sortir un papier sur les discussions sur est-ce que nous sommes dans une grande simulation. Il y a des philosophes qui défendent que oui. Bon, why not? Et donc, du coup, rien n'est réel vraiment, quoi. Bon, mais en fait, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que nos idées sont constamment mises à l'épreuve par des choses qui résistent. Et c'est ça qui est important. Et c'est là que tu pourrais répondre à tes étudiants qui disent oui, le monsieur, le réel, tout ça, tout ça.
Laurent fait sa tête de quand il a une question ou un contre-argument taquin.
C'est vrai, j'avoue. Merci Erwan de nous avoir fait un joli exemple de travail épistémique, prouvant par là même que comme et pourtant elle tourne et il suffit de bouger. Enfin bref, le travail épistémique a son intérêt. Le concept de défaiseur anciennement s'appelait anomalie. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement une manière de raconter l'histoire de l'entreprise scientifique de façon simple, comme si c'était une fonction à maximiser ou minimiser, où on va minimiser les anomalies, ce qui fait augmenter, on va dire, la probabilité de véracité en quelque sorte. Très bien. L'idée, effectivement, il y a quelque chose qui est incohérent avec notre théorie, incohérent à l'intérieur, incohérent à l'extérieur, et le fait qu'on va chercher à minimiser ces incohérences, ça fait partie du travail épistémique, c'est une dimension importante du travail épistémique et qui va être fructueuse. En revanche, il y a une dimension qui ne fait pas nécessairement partie du travail épistémique et qu'Erwan a, on va dire, énoncé sous la forme « I don't care », c'est-à-dire qu'il a décidé que la question métaphysique ne l'intéressait pas. C'est un choix, c'est une position, et c'est une position qui est de nature métaphysique. Et donc, du coup, ça veut dire qu'évidemment, elle a tout à fait la possibilité d'être un choix différent du sien.
J'ai pas dit ça. J'aurais une position métaphysique si je disais que cette question du réel n'était pas intéressante. Je dis juste que moi, I don't care. Alors, ça, c'est...
Et donc, on parle de ta métaphysique personnelle.
J'ai aucune. Peut-être que le réel existe, peut-être que le réel n'existe pas. C'est juste que je ne me pose pas la question. C'est tout.
Quand tu dis je ne sais pas, puisque tu as dit deux choses, tu as dit I don't know, là ça veut dire je ne sais pas, je suis agnostique. Et I don't care. Ça veut dire qu'on va plus loin. C'est le moment justement de rupture et le passage d'une position, on va dire, de travail épistémique, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas capable de déterminer le statut ou d'évaluer le statut de vérité ou non du corpus théorique en présence versus je m'en fous, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas, je m'en détourne. Autrement dit, on est en train de dire que dans le travail épistémique, cette dimension n'est pas à aller explorer. C'est ce qu'on appelle une routine défensive ou une heuristique négative, pour le redire dans les termes de Lakatos. Et ça, c'est une position qui est de nature ontologique et typique de ce qu'on peut appeler un programme de recherche. Et le travail épistémique permet justement de bien faire émerger ces positions pour qu'on soit très clair sur qu'est-ce que sont, par exemple, les heuristiques positives ou négatives. Est-ce que l'heuristique négative de aller fourgonner dans la métaphysique est une heuristique, on va dire, relativement populaire? Oui. Beaucoup de chercheurs sont très contents de ne pas aller se poser ces questions-là. Est-ce que c'est un impératif de la recherche? Non. Est-ce qu'on peut même en tirer des choses intéressantes en ayant, au lieu de l'heuristique négative, ne pas aller par là, au contraire, aller fourgonner là-dedans pour en découvrir des choses? La réponse est oui.
Erwan, j'aimerais bien avoir ta réaction sur le judo, la petite prise de judo intellectuel qu'a fait Laurent en caractérisant cette démarche de réflexion sur la connaissance que tu formulais comme étant un des éléments de ta HDR, des faiseurs, etc., comme étant une forme de travail épistémique. C'est-à-dire en prenant ta première réaction en disant ça ne sert à rien de travail épistémique, puis en disant finalement ta HDR est en partie sur une forme de travail épistémique.
Complètement dessus, oui.
Est-ce que le fait de défaire une théorie, ce n'est pas une activité un peu saine qu'il faudrait appeler de nos voeux, comme ce qu'on dit sur le travail épistémique, c'est-à-dire d'aller regarder quelles sont les critiques, quelles sont les limites
C'est, pour moi, c'est essentiel. J'espère que je n'ai pas pu... Je n'ai pas fait comprendre le contraire. Non, si, la démarche de mise à l'épreuve d'une théorie, ça fait partie du travail scientifique, du travail épistémique, hein, comme on veut. Le point du travail épistémique, c'était vraiment pour comprendre un petit peu en quoi cette notion se distinguait de la notion de travail scientifique, de méthodologie, tout ça. Il fallait juste clarifier les choses. Et puis même sur la dimension collective, je pense que ce n'est pas intrinsèque au travail épistémique, qu'on peut faire toujours du travail scientifique tout seul, mais c'est évident que la science, c'est un travail collectif aujourd'hui. Le travail scientifique isolé, c'est exceptionnel. Je dis juste que c'est possible. Bon, là, on n'est pas d'accord avec Laurent. Mais oui, non, il est évident que le travail de mise à l'épreuve des théories, ça fait partie du job.
Mais tu vois, là où je pense qu'il y a peut-être un truc où ça ne se superpose pas complètement, le travail épistémique et le travail scientifique, c'est que dans le travail scientifique, tel qu'il est souvent décrit dans les ouvrages de méthodologie de la recherche, de design, de machin, c'est quasiment toujours une démarche positive de création de connaissances ou d'extension de la connaissance.
Ah oui, pas de destruction.
Il y a rarement un chapitre sur la critique de la distance critique.
C'est vrai.
Et l'attaque critique des théories passées, des théories... Et c'est peut-être là qu'il y a un vrai supplément dans le travail épistémique, c'est que la manière dont on le décrit, on décrit aussi dans un texte qu'on a écrit, l'espèce de devoir d'inventaire, d'examen de ses propres connaissances, croyances et adhésions à des croyances. C'est peut-être dans une démarche négative, au sens de la négativité, ou en tout cas de la distance critique, qu'on peut peut-être voir un apport de la notion de travail épistémique par rapport au travail scientifique. C'est que le travail scientifique, il n'y a jamais un chapitre dans les ouvrages de méthodo qui parle de la critique.
Et oui, et puis c'est d'autant plus, là, même sur le côté individuel tout à l'heure de la démarche, Laurent avait parfaitement raison de rappeler que Grégor Mendel, ils étaient plusieurs dans leur tête. Quoi. Voilà. Donc il y avait un Grégor Mendel qui, chaque jour, essayait de démonter la théorie du Grégor Mendel de la veille, voire de l'heure d'avant. Donc effectivement, ça, le travail épistémique en sens là, même si, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais même en sens là, est fondamentalement collectif, et la dimension de destruction, de mise à l'épreuve, de test, c'est même pas que ça fait partie d'une des choses importantes, c'est que c'est la chose importante en fait. Le travail négatif est le cœur de la dimension du travail épistémique, c'est la mise à l'épreuve, c'est comme ça qu'on fait des défaiseurs, qu'on produit effectivement des mises à l'épreuve, ça va même au-delà simplement des anomalies. Les anomalies, c'est un type de défaiseur particulier, quand tu dis « oh là, il y a un truc qui déconne, quoi. » Mais quand tu observes quelque chose au microscope ou bien simplement en lisant ta feuille Excel, là, tu défais des états précédents de croyance. Et c'est essentiel. C'est essentiel.
C'est...
Il reste 5 minutes.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement, en tous les cas, qu'on a, on va dire, cet accord sur le fait de faire et défaire des théories, et que c'est une expression assez simple du travail scientifique et donc épistémique. L'accent sur lequel on a mené, c'est la réflexivité. C'est-à-dire pour que le chercheur ne soit pas le nez dans le guidon, il a besoin effectivement de prendre de la distance, et cette distance va lui permettre d'avoir une position qui soit beaucoup plus critique, parce qu'il est moins immergé dedans, il se rend compte de plus de choses, son espace mental se réouvre. Et cette réouverture de l'espace mental, elle est justement par le biais de la réflexivité. C'est ce travail d'inventaire, qu'il soit permanent ou intermittent, qui permet d'accroître cette distance, d'augmenter justement le sens critique, et en augmentant le sens critique, d'augmenter du coup la qualité de la mise à l'épreuve. Il y a plein de chercheurs qui pensaient qu'ils avaient trouvé l'expérience cruciale qui allait permettre de départager la théorie A versus la théorie B, C, etc. Et on s'aperçoit quand ils procèdent à l'expérience ou ils procèdent à l'étude qu'à la fin, bon, on a appris des trucs, mais qu'on n'est pas forcément capable de les départager. Ça, typiquement, ce sont des gens qui manquent de réflexivité, de distance critique, et ils peuvent avoir plus de distance critique et donc améliorer la qualité in fine de leur production de façon individuelle et collective en rentrant en dialogue. Très souvent, ça veut dire qu'ils ont un cadre théorique qui est trop étroit, et puisqu'on a trop zoomé, il faudrait dézoomer, faire quelques pas en arrière, être capable d'avoir plus de recul, ce qui nous permet de voir plus et de se dire « Ah oui, mais je n'ai pas pensé à ça. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pensé les choses de cette façon-là. » et c'est ça qui est pour moi le centre du sujet.
Ouais, écoutez, là, on est entièrement d'accord.
Oula,
événement à la SPSG, pour la première fois en plus de 15 ans, nous sommes enfin d'accord.
Non, c'est arrivé.
Pas juste ça parce qu'on arrive à la fin.
Par rapport à ce que tu viens de dire, Laurent, moi, je voudrais ajouter un élément. Enfin, du moins, c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, ou du moins, c'est un peu mes limites à un moment donné. Alors, du coup, j'avais pris des notes, mais je les ai perdues. Voilà. Dans le travail, bon, là, vu qu'il reste 5 minutes, bon, je ne me rappelle pas le temps d'en parler, mais en fait, tu disais qu'il faut dézoomer, effectivement, c'est ça que je trouve qui est important de mon point de vue, ce qui m'intéresse le plus, en tout cas dans le travail épistémologique. Et finalement, j'ai du mal souvent, hein, parce que, bon, pareil, comme certains d'entre nous, je ne suis pas spécialiste des questions d'épistémologie, donc j'ai du mal à le formuler de façon très rigoureuse, mais en gros, l'idée, c'est ça, c'est en gros, les deux vérités qui peuvent être... deux formes de vérité qui peuvent être analogues, mais pas dans la valeur, mais pas dans la forme. Ce serait d'un côté une vérité globale et de l'autre une vérité scientifique spécialisée. Donc une vérité globale, c'est par exemple un travail multidisciplinaire qui, où du coup, on devient de plus en plus macro, de plus en plus plutôt que micro. On va ajouter plusieurs théories, plusieurs disciplines, et donc évidemment, on devient de moins en moins pertinent, surtout quand on travaille tout seul, mais même à plusieurs, c'est difficile de coordonner. Et pourtant, donc, ce serait une vérité globale, on pourrait dire qu'à la même, qui est différente, attaquable, mais des fois qui est plus proche de certaines formes, de la vérité, on pourrait dire du réel, si on peut parler du réel, on en a parlé tout à l'heure, alors que la vérité scientifique spécialisée est très rigoureuse, très validable, etc. Enfin, reprend tous les critères classiques, mais elle est tellement à côté de la plaque par moment, est-ce que je suis clair? Moi, je prends un petit exemple bête, mais...
Non, c'est bon. Là, si je te réponds très, 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 très brièvement, je dirais que la problématique, elle est sur justement ton concept de vérité globale. Est-ce que c'est une qualification, une nature de la vérité qui est différente, ou au contraire, est-ce que dans ton exposé, ce qui se cache derrière, c'est plutôt des stratégies d'accès à la vérité différentes, par différents biais? Et je pense qu'en fait, c'est plutôt différentes manières de mener le programme, le travail épistémique qui se cache derrière ce que tu dis, et que tu es en train de dénoncer, on va dire, une forme de pathologie usuelle, classique, d'une stratégie de travail épistémique. Mais que ça ne. C'est surtout ça, en tout cas, que j'entends dans ce que tu viens de nous dire.
Ok.
Bon, je fais mon travail de Monsieur Loyal jusqu'à la conclusion. Il va falloir qu'on s'arrête là. Merci à tous d'avoir participé. Merci en particulier à Laurent pour la présentation et à Juan pour la discussion. La prochaine séance, c'est le 15 octobre. Même heure, même endroit en ligne comme à Nanterre, non, pas au même endroit à Nanterre, mais vous verrez sur le programme. Et c'est Rémi Jardin qui viendra présenter son ouvrage qui sera sorti la semaine d'avant au titre Alambiqué, de cours d'épistémologie normative à l'attention prioritaire du chercheur en gestion. Il y a vraiment que Rémi pour écrire, pas le bouquin, mais vraiment le titre, c'est très... très réuni. Il viendra pour le discuter à Nanterre et le bouquin s'annonce très intéressant. Donc, j'encourage vraiment à ce qu'on ait le maximum de participants sur place comme en ligne pour cette prochaine séance. Merci tout le monde, à bientôt.
Super. À bientôt, merci.
Merci. Les séances super. Ouais.
À bientôt, la SPSG.
Merci.
Ciao.
Hop, je récupère mon écran. Hop.